Merci, Mabzouter, pour la patience. Vous êtes sous la radio Africa Midi dans l'émission Savoir et comprendre. Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission ce soir. C'est avec notre invité depuis la Guinée, Corboya Baldé. Monsieur Baldé, est-ce que vous nous entendez? Bonsoir.
Bonsoir, monsieur, et bonsoir à
Voilà,
vous
c'est un plaisir.
également.
Merci. Voilà, merci beaucoup d'être là ce soir sur Africa Midi. Alors, Corboya Baldé, vous étiez membre de l'UFDG et aujourd'hui vous êtes membre du RPG Arc-en-Ciel. La question que j'ai beaucoup de questions à votre endroit. La première question que je voudrais vous poser, comment va le RPG aujourd'hui?
Le RPG se porte très très bien. C'est une force politique. C'est une grande école politique. C'est une grande école en matière de leadership politique.
D'accord. Une grande école politique, une grande école en matière de leadership politique. Et comment va l'UFDG, selon vous, aujourd'hui?
Bon, l'UFDG, c'est un parti aujourd'hui qui est en déclin. C'est un parti qui n'a pas de leadership. C'est un parti où il y a des yo-yo politiques. C'est un parti où il n'y a pas un leader capable de dire il faut faire ça, il faut arrêter ça. En un mot, la structure, elle n'est pas digne de nom parce que tout simplement, il y a des responsables qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel.
D'accord. Comme qui c'est responsable?
Bon, lorsque vous prenez au sein de la cellule de communication, parce que c'est une cellule que je maîtrise un peu auparavant, comme j'en ai dit, quand vous prenez un certain Alpha Bacar aujourd'hui, vous savez, ce n'est pas le fait d'être bardé de diplôme. Vous comprenez? Il y en a certains qui estiment qu'aujourd'hui, pour avoir un poste de responsabilité, au sein de cette formation, il faut avoir ceci ou cela. Mais sur le terrain, ils ne connaissent absolument rien en matière de com. Je le mange. Vous comprenez? Parce que non seulement je suis disponible pour communiquer, pour le parti, pour défendre la personne physique et morale du président, plus que même le coordinateur de la cellule de communication, ça montre à suffisance, c'est-à-dire l'écran en matière de leadership communicationnel que ce dernier avait. Vous comprenez? Et jusqu'à présent, même le président de l'UFDG, il est conscient. Parce qu'il y a eu des courriers à gogo, ça et là, venant des différentes structures qui sont affiliées à la cellule de communication, venant des personnes ressources, des sympathisants, des militants, interpellant la responsabilité du président, à savoir, il faut changer le leadership de la cellule de communication. Et jusqu'à présent même, là où je vous parle, il y a aujourd'hui des grincements de dents contre la personne de Alpha Bacar qui
Alors,
aujourd'hui.
dites-moi, concrètement, quels sont vos griefs, touchez du doigt, les
Mais
problèmes
oui,
quand il s'agit de Alpha
oui.
Bouakar, puisque vous le dites?
Et bon, le grief, en fait, il n'honore pas la cellule de communication de l'UFDG. Aujourd'hui, le président, c'est des diatribes, ça et là. Et puis, c'est des calomnies, ça et là. Des fois, c'est des choses vérifiables et que les gens sont là en train de dire sur le président. Il n'assume pas sa responsabilité de défendre le président. Et même les ratés. C'est-à-dire les ratés que le président est là en train de faire sur les différentes radios, jour comme nuit, en ce qui concerne cette dernière communication qu'il a eu à faire sur les grandes villes, où il s'en est pris à l'ancien président de la République de Guinée, qui n'est autre qu'Ossé Kouturé. Et aujourd'hui, ça coûte de la quinine au président de l'UFDG, parce que non seulement
Et vous,
la
pensez que c'est une mauvaise communication?
C'est une mauvaise communication quand on est leader. Hein, à un moment donné de l'histoire, il faut assumer l'histoire de notre pays. Il ne faut pas essayer
Monsieur
de
Baldé,
Oui.
quelque part aussi, quand on est leader, il faut assumer les choses, ses convictions, ses choix. Celui d'aller a le droit de ne pas apprécier un ancien président. Non?
Mais écoutez, moi je vous parle de la réelle politique. Vous comprenez? Vous pouvez, c'est-à-dire utiliser vos sentiments personnels, et je l'accepte, mais au contraire, n'occupez pas aujourd'hui, c'est nous, c'est quelqu'un qui est là en train de chercher du leadership, c'est-à-dire avoir le leadership général sur toutes nos positions. Et aujourd'hui, Madame Touré s'affiliait derrière une opposition. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, je pense que l'opposition a perdu sa flamme. Parce que moi, je peux le dire, c'est à cause de cette naïveté politique. Vous comprenez? Et revenons-en dans d'autres aspects. Moi, personnellement, oui, j'étais de l'UFDG. Je connais bien le parti. C'est un parti où les responsables nous font. Oh, okay. Ils ne font pas le travail en fait. C'est des responsables qui sont là juste les biens économiques venant de l'étranger, de l'Angola, de la France, des États-Unis. Ils utilisent ces biens-là pour leur intérêt personnel. Ceux qui se battent et ceux qui ont perdu leur vie, ceux-là qui sont victimes de la politique en République de Guinée ne sont jamais soutenus par l'UFDG. Au contraire, ils le font partout où ils sont dans le pays. C'est de ramasser de l'argent, ça et là, ou retour quand
Monsieur Baldé, mais en disant cela, vous-même, vous savez oui, qu'au sein de l'UFDG, il y a des structures, par exemple, en ce qui concerne les blessés et Vous savez bien qu'il y a des dispositions qui sont prises, il y a des contributions qui se font au sein de l'IFDG.
Écoutez-moi, moi je vais vous dire, même moi je le fais, tous les militants le font, jour comme nuit d'ailleurs. Mais imaginez-vous, si l'UFDG, quand je parle de l'UFDG, l'UFDG a plus de 32 députés, sans compter les députés affiliés à l'UFDG. On peut parler de 37 et 40, vous comprenez? Si aujourd'hui ce même parti se retrouve dans une situation catastrophique en matière de gestion économique et en matière de gestion d'une ressource humaine capable d'apporter un plus.
Alors, vous dites une situation catastrophique en matière de gestion économique. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire?
Oui, les ressources économiques du parti ne sont pas utilisées dans les règles de la. Ça, c'est un deuxièmement où vous prenez cette ressource humaine. Elle est occultée. Elle n'est pas reconnue au sein de l'UFDG. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Je suis trop, très jeune. Mais lorsque j'ai commencé, certains aujourd'hui qui ont des leaderships au sein de l'UFDG, nous, on nous a trouvés là-bas. Mais ça ne nous regarde pas. Nous, l'essentiel, c'était d'épauler le parti et sauver l'honneur du parti. Quand j'ai décidé de faire la grève avec mes amis, et sur des points très pertinents, très assaillant, qui méritait, c'est-à-dire beaucoup de considération de la part des responsables, malheureusement. Quand on parle de la formation des communicants, il y a ces communicants qui se lèvent chaque jour à partir de 5 heures, les émissions interactives commencent. Il y en a certains, ils le font parce qu'ils ont envie de sauver l'honneur du parti, par passion. Mais certains.
Bien, alors dites-moi, tout à l'heure, vous dites que. Au niveau de la gestion économique au sein de l'IFDG, hein, ça ne se fait pas dans les règles de l'art. Encore une fois, j'aimerais que vous touchiez du doigt les problèmes concrètement. Quels sont les problèmes en matière de gestion économique au sein de l'IFDG? Sans langue de bois.
Sans langue de bois, en matière de gestion économique au sein de l'UFDG, c'est que les biens de l'UFDG ne sont pas destinés à des militants et à des sympathisants et à ceux-là qui se battent
Ils
et
sont
qui font
destinés à
le
qui?
travail. Ils sont destinés à ces Lugalens et Senghor, il faut le reconnaître aujourd'hui, et ils continuent vraiment de se faufiler avec ça. Ils continuent au même moment, ça
Des
grogne
exemples?
au sein. Des exemples, ils sont avec des 4x4 ça et là, les militants blessés, des militants qui ont perdu leur vie, c'est-à-dire certains même des handicapés à vie qui ne sont jamais soutenus par le parti. Mon Dieu, écoutez, soyez un peu
Mais quand vous
responsable.
parlez de 4x4, parce que j'aime aller Un peu, vous êtes dans l'émission, ça va comprendre. On veut comprendre les choses. Pourquoi on appelle là les politiciens? Vous voyez, c'est-à-dire qu'au-delà des commentaires politiques, toucher de prendre des cas concrets pour qu'on comprenne mieux. Vous parlez des 4x4, des véhicules. Vous n'avez pas de preuve que les véhicules que disposent les dirigeants, les responsables, les sujets ne leur appartiennent pas.
Je vais vous donner aujourd'hui une information capitale.
Allez-y.
Les militants et sympathisants de cette formation qui nous écoutent à l'instant T dans le monde entier, il y a 3 personnes au sein de l'UFDG actuellement, voire même 4. Un jour viendra, le déclin du parti viendra de ces 4 personnes-là. Vous avez vu Alpha Bakar, vous avez vu Malado, vous avez vu, comment dirais-je, M. Banou, vous avez vu Ousmane Gawal. Voici des gens qui feront en sorte qu'un jour le parti sera en déclin.
D'accord, alors vous dites les 4 personnes qui feront tomber l'UFDG, c'est Alpha Bakar, Malado, ils avaient dit Fodoussou, donc c'est Fodoussou, et Ousmane Gawal.
Non, Fodoussou ne fait pas partie.
Ok, pardon, parce que je n'ai pas bien entendu. Justement, okay. Répétez, je vous en prie. Je crois qu'il dit des bêtises.
J'ai dit bien. Vous avez Alpha Bakar, qui est le chargé de la communication par intérim actuellement. Vous prenez Malado, qui est le trésorier du parti. Vous prenez Gawal, qui est le conseiller politique. Vous prenez M. Banou, qui est chargé de la
communication
politique. Voilà. Et même c'est Loudalen, il faut le réitérer. Voici les 5 personnes-là. Ils vont faire très mal à l'UFDG. Et ça ne fait qu'au commencer.
Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Ces cinq personnes, elles font quoi concrètement?
Vous dites?
Elles font quoi concrètement pour faire mal à l'UFDG?
Mais c'est des gens... Et les autres, c'est des gens, ils n'assument pas leurs responsabilités. Ils ne font pas le travail correctement. Et l'autre aussi, c'est lui qui est le chef. Il était censé vraiment, c'est-à-dire, de les s'enlever au niveau de leur poste, mais il ne le fait pas. Il les caresse là-bas, il est avec eux, jour et nuit, et puis il les donne de l'occasion à continuer de faire les mêmes actes. Ce qui veut dire que lui aussi, il est coupable, il est en même temps aussi complice de ce qui arrive à l'UFDG.
Alors, ok, Monsieur Dadé, encore une fois, j'aimerais comprendre et je voudrais essayer de vous bousculer un peu. Je voudrais poser la question parce que vous avez parlé de problèmes de gestion économique au sein de l'UFDG, selon vos propres termes. J'ai envie de poser la question concrètement, sans tourner autour du pot. Est-ce qu'il y a de la corruption ou des détournements au sein de l'UFDG, selon vous?
Je le confirme, il y a des détournements. Il y a de la corruption au sein de l'UFDG. C'est une gabegie financière qui ne dit pas son nom au sein de l'UFDG actuellement.
Et vous accusez qui? Vous accusez qui au sein de l'UFDG de ces faits?
Écoutez,
s'il y a de la corruption, il y a des détournements, il y a des personnes.
Actuellement, quand j'écoute certains responsables de l'opposition dire que le pays va mal, il y a l'injustice, il y a ceci et cela, vous les posez la question, vous savez ce qu'ils vont vous répondre? C'est Alpha Condé le problème. Alors, à l'UFDG aussi, il y a beaucoup qui en ont des problèmes, mais le véritable problème, c'est Sylou Dalin.
Le véritable problème de l'UFDG, c'est Sylou Dalin. Alors, une fois encore, par rapport à ma question, si bien entendu, si vous avez une réponse, je ne vais pas vous forcer la main, ces détournements et ces corruptions, est-ce qu'il y a des personnes que vous accusez d'être coupables ou suspects de ces faits?
Bon, vous savez, moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Et de manière directe ou indirecte, il faut l'assumer, le dire plus haut qu'il y a une corruption qui ne dit pas son nom au sein de l'UFDG. Maintenant, tant mieux aux uns aux autres de faire leur investigation, de trouver le contraire ou bien de trouver oui. Et ce que j'ai dit, voici la finalité de ce que j'ai dit, c'était
bien.
Donc, du coup,
voilà.
Chacun a dit.
Voilà. Bien, voilà, c'est notre invité, mes auditeurs, Corboya, Ibrahim Corboya Baldé, voilà, donc, qui était dans l'IFDG hier, aujourd'hui, là, dans le RPG Arc-en-Ciel. Alors, monsieur Baldé, je voudrais poser la question, qu'est-ce qui vous a fait quitter l'IFDG concrètement? C'était quoi les raisons?
Qu'est-ce qui m'a fait quitter dans le FDG? Depuis 2007, je suis l'un des jeunes qui, à un moment donné, s'est tellement battu de 2007 à nos jours au sein de l'UFDG. J'ai toujours pris le temps de faire des courriers au président de l'UFDG, à certains responsables de l'UFDG, de prendre en compte nos revendications. C'est-à-dire, monsieur le président, de temps à autre, nous, les communicants, nous avons besoin d'une petite formation. Et c'était quelque chose pour moi de nécessaire. Vous comprenez? Deuxièmement, monsieur le président, nous les communicants, nous avons besoin d'un soutien matériel et financier. Pour moi, c'était quelque chose de normal. Monsieur le président, nous voulons qu'il y ait la restructuration de cette cellule de communication parce que pour nous, elle ne fonctionne pas. Pour moi, c'était quelque chose de normal, etc., etc. Voici les trois points focaux sur lesquels, d'ailleurs, je n'ai jamais voulu abdiquer par rapport à mes revendications. Parce que il y a des sympathisants au niveau de l'étranger qui souvent nous appellent, ils nous demandent de quoi avez-vous besoin. Des fois, il y en a certains qui quittent les États-Unis juste pour venir nous rencontrer pour qu'on puisse mettre sur papier nos différents problèmes afin d'éradiquer le problème. Malheureusement, certains, quand ils partent, ils amènent la somme et puis voilà, ça disparaît. Moi, par jour, je pouvais financer et 80 000 francs guinéens par jour en matière de consommation, de crédit et en matière... sans compter les petits téléphones dont nous achetons au jour comme nuit, juste pour épauler le parti. Bon sang de Dieu, si le parti avait vraiment la volonté d'aider la cellule de communication, d'aider l'UFDG, il allait le faire. Regardez les élections communales et communautaires. Moi, personnellement, il y en a certains qui m'ont appelé, ils ont envie de me mettre sur la liste. J'ai dit, moi, personnellement, je ne suis pas intéressé parce que j'ai une autre activité. Pour moi, là-bas, c'est bon. Mais il y a mes amis qui veulent être sur la liste, aidez-les à être sur la liste. Déjà, voici le nœud gordien. C'est-à-dire, tout le problème vient de là. Le fait qu'ils n'ont pas voulu mettre ces gens-là sur la liste là-bas, ça a créé du bruit et ils ont jugé nécessaire de me mettre comme porte-parole de leur problème. Parce que moi, le problème ne me concernait même pas. Et du coup, parce qu'ils ont su, quand c'était moi qui allais vraiment être devant leur problème, soit ça allait se finaliser, ou en tout cas, on allait y avoir un petit résultat. Fort malheureusement, le président, il a appelé les uns et les autres, on a effrayé certains, ils ont renoncé, mais j'ai continué mon combat. Mais plus grave, vous savez, et quand vous êtes dans une entité, c'est obligatoire, il y aura toujours des problèmes, mais c'est de la manière de résoudre le problème qui va faire en sorte que soit vous continuez à être vraiment hors la loi, ou bien soit vous revenez à la raison. Moi, on m'a rejeté. Parce que pour eux, vous savez, ils ne s'attendaient même pas d'abord à ce que je quitte pour l'UFDG. Pour eux, c'est quel que soit le problème, j'allais rester. Et plus grave, ils ont dit, oh, fort, attendons d'abord, il va finir de s'agiter. Après, quand il va finir, on va prendre des sanctions. Et certains aussi, vous savez ce qu'ils ont dans la tête? Le fait que, c'est que j'avais pas voulu le dire, mais permettez-moi de le dire, c'est extrêmement important, on ne cache rien ici. Le fait que j'ai le même prénom que mon leader, je n'allais pas quitter. Et même si je quittais, Baouri a quitté, ça n'a pas fait mal au parti. Salibela a quitté, ça n'a pas fait mal au parti. Tel et tel a quitté, Diallo Sadeka a quitté, ça n'a pas fait mal au parti. Mais si toi aussi, Corboya, tu quittes, ce n'est rien à ça. C'est un esprit très archaïque en matière de gestion d'une ressource humaine. N'acceptez jamais de perdre une personne que vous estimez être une ressource. Parce que moi, aujourd'hui, je pensais que le RPG... Écoutez, permettez-moi. Vous pensez
Allez, terminez, terminez, monsieur Baldé.
Le RPG est un parti qui est fou, non? Ils ne sont pas fous, même eux, ils ne vont pas prendre des gens comme ça de rien, qui n'ont pas de rentabilité politique, qui n'ont...
Mais justement, parce que c'était ma question qui allait suivre. Vous avez dit la raison qui en fait que vous avez quitté le FDG. Et pourquoi le RPG?
Pourquoi le RPG? Moi, j'ai une philosophie dans ma tête. Vous savez, et après la première année, c'est la deuxième année. Après la deuxième année, c'est la troisième année. Tous les partis politiques que vous voyez aujourd'hui au sein de l'opposition, ils n'ont aucune stratégie, ils n'ont aucune force. Et moi, je quitte dans un parti qui est aujourd'hui où il y a le chef de file de l'opposition qui n'a pas pu vraiment remédier à nos différents problèmes. C'est un autre parti de l'opposition Z ou bien Y qui va résoudre nos problèmes. Non, pour moi, il fallait avancer, continuer après une
école politique. Donc, si je comprends, quand il n'y a pas un parti politique dans l'opposition aujourd'hui qui a de bonnes stratégies, c'est le RPG qui est le parti en Guinée qui a les bonnes stratégies, selon vous.
Évidemment, je confirme.
D'accord. Alors, je voudrais juste poser j'ai envie de poser la question. Est-ce que vous pensez que le RPG arc-en-ciel et l'IFDG, où vous étiez avant hier, ont la même conviction politique, ont les mêmes positionnements politiques, la même philosophie politique?
Non, jamais. Il y a une grande différence. Parce que moi, je vais vous dire, ce qui me plaît beaucoup sur le RPG arc-en-ciel, c'est une grande école politique et l'objectivité est là et l'efficacité, surtout la finalité. Tout ce qui crie là, aujourd'hui ça et là, c'est juste pour avoir le pouvoir et le RPG, ils sont au pouvoir, leur objectif est déjà atteint, surtout l'objectif du président de la République. Il a toujours été convaincu. Aujourd'hui, il est le président de la Guinée. Le rêve, tout le rêve de celle aujourd'hui, c'est d'être le président de la Guinée. Le reste, là, ça ne le regarde pas.
D'accord.
Moi, je veux...
Donc, le RPG est plus concret dans ça, et plus pragmatique.
C'est un parti très pragmatique en matière politique. Et ça me plaît.
D'accord. Alors, M. Baldé, je voudrais poser cette question. Peut-être qu'il ne va pas forcément vous plaire. Mais dites-moi, votre engagement en politique, est-ce pour arriver au pouvoir, être pragmatique, quel qu'en soit le prix, ou pour défendre une conviction?
Reprenez la question.
Je réponds à la question. Vous, votre engagement, quand vous vous engagez en politique, est-ce pour défendre une conviction ou pour avoir le pouvoir, et quel qu'en soit le prix, même si cela ne tient pas compte de votre conviction?
Écoutez, moi, j'utilise la thèse et l'antithèse en même temps. Vous comprenez? Je suis à la fois avec les deux. Vous comprenez? Et j'ai une conviction.
Avec la synthèse entre les deux.
Et la conviction est le début tout. C'est le fait d'avoir une idée dans la tête et se battre pour l'idée. Moi, à travers la politique, moi je me suis dit, je peux défendre, je peux parler au nom d'une petite entité. Vous comprenez? Et défendre, parce que pour moi, la politique, on l'utilise pour atteindre un objectif. Vous comprenez? Si maintenant, vous parlez, je ne sais pas, des sensations, ça et là, et utiliser la morale, je ne sais quoi, mais écoutez, je vous retourne dans le livre de Machiavel, et vous allez fouiller un peu, s'il le faut fouiner, dans le livre Le Prince, c'est extrêmement important pour ceux-là qui pensent que la politique, c'est ceci ou cela. L'objectivité...
D'accord, M. Baldé, vous avez lu Machiavel?
Oui, je l'ai lu.
D'accord. Est-ce que c'est une référence pour vous en matière politique?
Non, vous savez, il y a dans certains cadres, et c'est pas une référence, mais à un moment donné, quand vous arrivez sur certains points, vous vous dites qu'il faut utiliser l'idée machiavélique.
D'accord. Il faut, voilà. Bien, voilà, utiliser Machiavel. Tenez, mesdames et auditeurs, c'est un plaisir d'être sur Africa Midi dans l'émission « Savoir comprendre » qu'on voyait à Baldé, notre invité, sur cette deuxième partie. Si vous voulez poser vos questions, appuyez sur étoile 600 ou étoile 61. Si vous nous écoutez à travers Zeno Live, écoutez, appuyez simplement sur la touche 5. Hein. Si vous nous suivez également sur le site Africa Midi. Vous pouvez demander la parole simplement en cliquant sur le micro. Ceci dit, je crois, on va enchaîner les questions. Monsieur Baldé, je voudrais savoir, dites-moi, concrètement, au niveau du RPG aujourd'hui, vous occupez un poste, quelle est votre position, quelle est la valeur ajoutée que vous apportez au RPG?
Bon, c'est cette valeur que j'avais toujours eu à apporter à un moment donné de l'histoire au sein de l'UFDG, c'est-à-dire le verbe et la communication en un mot, qu'elle soit au niveau des réseaux sociaux, qu'elle soit à la radio, comme je le faisais auparavant, ça continue comme ça. Je suis dans les structures. Et je continue à travailler avec mes amis, comme à l'accoutumée, avec certains de l'UFDG. Mais aujourd'hui, je vous assure, moi, mon problème, certains pensent que c'était pour avoir des postes. Non, loin de là. Moi, là où je suis au sein du RPG, je suis affilié à la cellule de communication du RPG Arc-en-Ciel. Donc, du coup, là où je suis, je me sens dans ma peau parce que c'est un secteur que je maîtrise un peu par rapport à certains secteurs. Donc, là-bas, le travail continue. Nous communiquons pour le RPG, pour le président de la République, mais aussi pour les acquis démocratiques que le président de la République a eu à poser en République de Bénin.
D'accord, les acquis démocratiques, voilà, que le président Alpha Condé a eu à poser. Monsieur Baldé, vous avez dit, lorsque vous étiez présenté au siège du RPG Arc-en-Ciel, vous avez dit, après lui, c'est lui.
C'est lui.
Qu'est-ce que vous vouliez dire par là?
Vous avez, après lui, c'est lui. Non seulement ça peut être lui encore, mais ça peut être aussi une personne affiliée à l'idéologie du RPG Arc-en-Ciel. Le cas de l'Afrique du Sud en fait foi. Aujourd'hui, vous avez vu l'ANC qui continue d'assumer la présidence, qui continue d'assumer le leadership en un mot. Mais est-ce que Mandela est là? Il n'est pas là. Desmond Tutu, il n'est pas là. Etc., etc., ils ne sont pas là. Mais l'ANC continue à assurer le leadership au niveau de l'Afrique du Sud. Vous quittez là-bas, je vous fais revenir en Angola. Aujourd'hui, Dos Santos, où il est, il n'est plus là, mais c'est le même leadership qu'il avait au nom de son parti, ce même leadership qui continue là-bas. Donc, voici deux exemples dont je vais vous citer. Après le professeur Alpha Condé ici aussi, je pense que ça peut être aussi le professeur Alpha Condé, à travers le sang, à travers les actes, même si ce n'est pas sa personne physique. Et d'ailleurs, même si on lui donnait un troisième mandat, ce n'est pas mal. C'est quelqu'un, il est là en train de travailler au nom de la population guinéenne. Et d'ailleurs, la Guinée d'aujourd'hui et celle d'hier, entre vous et le bon Dieu, il y a une grande différence. Auparavant, un étranger ne pouvait pas venir en République de Guinée. Tout simplement, il n'y avait pas là où rester parce que nous étions en manque d'hôtels. Et aujourd'hui, quand vous prenez les hôtels 5 étoiles, Palm Camaïen, vous avez Sheraton, vous avez... Je vous dis, ça pousse un peu partout aujourd'hui, sans parler...
Monsieur Baldé, Conakry est une ville sale aujourd'hui, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il y a un problème d'électricité qui se pose, la pauvreté a pris le dessus, les gens souffrent, ça aussi, il faut le dire. Non, oui.
Écoutez-moi, je vais vous dire aujourd'hui une chose. Je m'inscris en faux. L'électricité, elle est là. Vous comprenez? Vous prenez l'eau. Certes qu'il y a de ces quartiers, mais c'est un secteur où aussi le professeur Alpha Condé s'est beaucoup investi. Vous prenez aujourd'hui le secteur de l'électricité. Parmi tous les secteurs, hein, au niveau du gouvernement, c'est le seul secteur où le professeur Alpha Condé s'est énormément investi. Vous comprenez? Mais si aujourd'hui les gens estiment que oui, il n'y a pas d'électricité, c'est archi faux. Nous, nous sommes là. Auparavant, ce n'était pas comme ça. L'électricité, elle est là de manière abondante. Il faut oser de le reconnaître. Maintenant, en ce qui concerne l'eau, oui, il y a ces quartiers. Oui, ça laisse beaucoup à désirer. Mais on ne peut pas tout faire à un moment donné. Donc, c'est étape par étape.
Ok. Alors, je voudrais revenir par rapport à ce que vous avez dit. Après lui, c'est lui. Ça peut être quelqu'un d'autre qui a la vision du RPG arc-en-ciel. Et vous avez dit, même si Alpha brigue un troisième mandat, ce serait bien, selon vous. Même s'il faut, violer la Constitution, M. Bandé.
Mais écoutez, la Constitution, elle révèle de la volonté d'une nation, c'est-à-dire de son peuple. Ce même peuple, même cette Constitution d'ailleurs, il y a beaucoup de couacs dont je ne vais pas rentrer dans les détails. Maintenant, la nation, elle se résume à un président. Le peuple se résume à un président. C'est comme sur le président, à partir du moment où vous êtes président, c'est-à-dire vous exprimez la volonté d'un peuple. Et ce peuple-là, qu'il le veut ou pas, vous l'exprimez de manière directe. Parce que vous êtes un élu du peuple. Donc, si le professeur Alpha Condé tente d'avoir de la tentation pour un troisième mandat, mais le peuple aussi est là. Si le peuple le donne, oui. Si le peuple ne le donne pas, ok. C'est aussi simple que ça. Mais parlant
de... Et comment le peuple va lui donner ou pas?
Non, c'est à travers ses acquis démocratiques, c'est à travers...
Oui, mais justement, comment le peuple va-t-il s'exprimer, selon vous, pour dire oui, nous sommes d'accord ou non, nous ne sommes pas d'accord?
Oui, on peut faire, s'il le faut, un référendum. Vous comprenez? Ça peut marcher, le peuple doit s'exprimer. Au-delà, au cas où, oui, on dira qu'il s'est présenté pour un troisième mandat. Allons-y au jour, votons contre ou pour. C'est en ce moment, les résultats sortis des urnes, j'allais dire, vont dire oui, si c'était normal. Vous comprenez?
Bien, oui. Je comprends très bien. Alors, monsieur Baldé, je voudrais poser la question. Est-ce que, sincèrement, hier, lorsque vous étiez dans l'UFDG, vous auriez pu défendre de tels arguments?
Écoutez, je suis un communicant modèle. J'ai toujours eu des satisfactions ça et là. Vous savez le pourquoi? J'étais le seul communicant capable de dire dans une radio ou bien sur la toile, celui ne doit pas faire ça, ou bien il s'est passé quelque chose au sein de l'UFDG, halte à ça. On ne veut pas ces genres de démagogie au sein de l'UFDG. Des fois, certains m'appellent pour m'insulter. Il faut arrêter. Tu es toujours à côté du président. Tu dis des choses pareilles, comme si tu avais quitté le parti. Je dis, moi, je suis comme ça. Quand ça ne va pas, même au sein de ma formation politique, vous voulez que j'arrive à faire de la démagogie juste pour ça? C'est pourquoi moi, j'ai toujours été parmi les communicants, c'est-à-dire de référence en République de Guinée. Donc moi, j'ai toujours...
D'accord, bon, je ne savais pas. Mais dites-moi, donc je reviens à ma question. Est-ce que hier, vous auriez pu dire cela? Est-ce que sincèrement, Corboya Baldé, lorsqu'il était dans l'UFDG, était capable de dire si Alpha... Il peut briguer un troisième mandat. Sincèrement, honnêtement. Parce que vous êtes écouté par tout le monde, monsieur Baldé. Hein. On est écouté dans Africa Midi, c'est 90 pays. Est-ce que vous voyez?
Oui.
Voilà, je vous repose la question encore une fois. Et il y a l'histoire. Sincèrement, parce que honnêtement aussi.
Non, écoutez, pose la question. Moi, je vais vous répondre. Écoutez, je vais vous répondre. Il ne faut pas partir avec des si, avec des suppositions artificielles. Ce n'est pas ça la politique. C'est la politique, elle se fait avec le temps. Vous comprenez? Moi, vous me parlez de quelque chose qui ne va jamais se faire. Parce que non seulement j'ai quitté, donc la réponse dont vous voulez, je ne veux pas vous répondre comme ça. Parce que c'est une question artificielle pour moi. Donc, parlons de l'essentiel. Je ne vais jamais être de l'UFDG. J'ai quitté l'UFDG. Il ne faut pas me dire si j'étais dans l'UFDG, j'allais dire tel et tel et tel. Non, ça, c'est des suppositions, moi, je pense.
D'accord. Bien, voilà. Et Mme Zélite, alors, Mohamed, du côté du Lyon, Mohamed, si vous êtes avec nous, votre micro est activé. Mohamed, est-ce que vous m'entendez? Alors, tenez. Bon, Mohamed, voilà, je vous entends pas. Je vous entends pas. Si vous pouvez éventuellement vous reconnecter, puisque je n'arrive pas à pouvoir ouvrir votre micro. Voilà. Il est un peu verrouillé. Si vous pouvez vous reconnecter. Vous pouvez redemander la parole, Mohamed Kidilion. Alors, Monsieur Baldé, j'ai beaucoup de questions à votre endroit. Parce que c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est intéressant, intriguant, oui, et ça donne matière à étudier quand on parle de la politique en Guinée. Je vais poser la question, quelle est votre appréciation par rapport à Macanera? Ce dernier, il a quitté la mouvance pour l'opposition.
Écoutez-moi. Mm-hmm. Et aujourd'hui, oui. On me compare d'ailleurs avec Macanera dans la même philosophie, mais c'est quelqu'un que moi je respecte beaucoup. Je l'admire. Vous savez pourquoi?
Non.
Même aujourd'hui, Macanera Kaki quitte l'opposition républicaine. Il repart au sein de la mouvance présidentielle, il aura sa place. Vous savez le pourquoi?
Non.
C'est que c'est quelqu'un, il a une finalité politique. Moi, j'aime ça. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit ici à celui d'Alain Diallo? Nous, on a même entendu que oui. Non, c'est que je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui, le bras droit de celui d'Alain Diallo, même en mangeant, si ma caméra n'est pas à côté, il ne va pas manger. Cela veut dire quoi?
Mais arrêtez, M. Baldé. Arrêtez, c'est quand même c'est démagogique, vous qui parlez de démagogie.
Non, c'est, je vous le jure, mm-hmm. Mais écoutez-moi, mm-hmm. Monsieur, c'est mon homonyme, hein, vous êtes Ibrahim, donc c'est
Ibrahim. Exactement.
Donc, vous êtes mon homonyme. Donc, vous savez, nous les Ibrahim, là, on est très pragmatiques. Ce que je vous dis, vous parlez juste de l'ironie. Vous comprenez?
D'accord.
Je vous dis oui. Aujourd'hui, c'est l'ouda, même pour manger. Vous partez chez celle. Si ma caméra n'est pas au niveau du bras droit, chez Loudal, elle n'est pas à l'aise. C'est ce que je vous dis. Je
d'accord. Vous... Ben, si vous le dites.
Voilà.
Ok. Voilà, si vous le dites. Tenez, voilà. Parce qu'on ne va pas tarder de terminer cette émission. Cette dernière, deuxième partie. Hein, je rappelle les auditeurs. En troisième partie, on aura M. Abdallah Sherif, président du GOA, groupe organisé des hommes d'affaires. Mohamed, si vous m'entendez, votre micro est activé maintenant. Bonsoir à nous.
Oui, c'est ça. Bonsoir, j'ai essayé, mais ça ne marchait pas. Ok, je me suis reconnecté.
Bonsoir,
c'est M. Diallo?
M. Baldé.
Ah, M. Baldé, bonsoir.
Bonsoir.
Allô?
Oui. Oui, bonsoir.
Donc, je crois qu'Ibrahim a essayé de comprendre, parce qu'il il est comme moi, je n'ai pas compris. Vous quittez l'UFDG, vous rejoignez le RPG, tout est normal. Parce qu'en fait, M. Ibrahim Ba a essayé de vous poser la question, pourquoi vous étiez à l'UFDG? Vous étiez à l'UFDG pour avoir le pouvoir, pour avoir des postes, pour avoir un poste de communicant d'un parti, ou vous étiez là pour vous battre pour les Guinéens? Parce qu'à aucun moment de tout ce que vous dites, j'ai entendu parler des problèmes des Guinéens, qui sont des problèmes de route, vous nous parlez d'hôtels. Ah ouais, c'est bien beau. Vous croyez que les entrepreneurs qui viennent en Guinée vont vivre dans les hôtels? Ils veulent avoir leur maison. Moi, les entreprises, les patrons que je connais, ils ne vivent pas dans des hôtels en France, hein. Dans leur maison. Si vous voulez que les gens viennent en Guinée, ce n'est pas des hôtels qu'il faut construire. C'est un climat où les gens peuvent rouler, la route, il y a des routes, il y a de l'eau. Monsieur Bam vous a répété ça plusieurs fois, vous nous racontez encore des contre-vérités, comme si à force de le répéter, ça va marcher. Ce n'est pas la communication dont les Guinéens ont besoin. Les Guinéens ont besoin d'action, Monsieur Baldé. Il faut arrêter de parler. J'en ai marre des gens qui parlent. Ce n'est pas possible, Monsieur Baldé.
D'accord. Alors, votre question, Monsieur Diallo.
Ma question est que je veux poser la même question que vous avez posée, M. Ba. Pourquoi il a quitté l'UFDG pour rejoindre le RPG? Si c'est pour défendre les Guinéens, il nous parle de corruption à l'UFDG. Mais la Guinée, elle est corrompue. Qui est le responsable en Guinée actuellement, M. Baldé? Qui est le responsable de tout ce qui arrive à la Guinée? C'est M. Seydou Dalin, il n'est pas présent. Moi, je ne suis pas pour M. Seydou Dalin. Moi, je pense même que c'est M. Faya qui devrait diriger la Guinée, parce que c'est le seul qui parle des Guinéens quand il parle. Il ne parle pas de politiciens, il ne parle pas de lui, il parle des Guinéens, des problèmes des Guinéens. Il faut parler de ça, M. Baldé. Arrêtez de nous parler. Moi, j'étais le plus fort en communication, il fallait me mettre moi, pas lui. On s'en fout de
Bien.
ça. C'est les Guinéens qui sont
Voilà.
plus
OK,
importants que les
c'est
Guinéens.
noté.
Pourquoi vous avez quitté l'UFDG pour aller au RPG? Pourquoi vous avez
Bon,
quitté l'UFDG
normalement, il a
pour aller parler de
répondu,
ça?
mais bon,
Non, il n'a
parce que
pas
voilà,
répondu.
il va
Il n'a pas
rester.
répondu. Il
Mais
m'a
non,
dit
non, non,
son
bon, il
opinion.
a donné sa réponse, Monsieur Diallo, hein, on
Il
peut
n'a
ne pas
pas de
être d'accord.
conviction. Donc,
Donc,
il n'a pas de conviction. C'est ça.
oui,
Donc, il n'a pas
justement,
de
ça,
conviction.
c'est. Chacun peut juger après son intervention,
Après,
simplement.
on s'étonne que la Guinée soit en retard.
Bien, merci, Mohamed, du côté de Lyon. Voilà.
Je suis désolé, mais j'étais vraiment énervé là parce que
Non,
M. Baldé,
ne
c'est
le soyez
ça.
pas. Vous
On
êtes
nous
africain,
parle,
il dit,
on
ça va
nous
les
parle de
comprendre.
convictions. Parlez-nous de
C'est ça la
convictions,
langue de
M.
bois.
Baldé. Parlez-nous des Guinéens. Parlez-nous des convictions. Arrêtez de nous parler de tel ou tel. On s'en fout de M.
Bien,
Tchabalin. On
ok.
s'en fout de M. Gawal. On
Merci
veut des
beaucoup.
actes. On en a marre des blablas. On veut des actes maintenant en Guinée.
Voilà des actes. Merci, Mohamed, du côté de Lyon. Alors, Monsieur Baldé, tenez, hein, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose rapidement, sinon je prends un second auditeur.
Bon, bon, déjà, c'est des questions dont j'avais répondu, mais je comprends l'amertume.
Allô, Monsieur Baldé, est-ce que vous m'entendez? Non, on l'a perdu entre-temps. On l'a perdu, je crois, il m'a besoin du temps. Tenez, 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 oui, je l'ai perdu entre-temps, Corboya Baldé, depuis la Guinée. Voilà, il m'a besoin du temps. C'était notre invité de cette première partie. Je vous demande de garder l'écoute. Voilà, on va voir, reconnecter à l'autre pour terminer cette partie. Si ce n'est pas le cas, ce sera pour enchaîner avec la troisième partie de cette émission ce soir. Vous êtes toujours sur Africa Midi dans l'émission. Ça va le comprendre. Pour de telles initiatives, le début, c'est un peu pour.
Essayer de mesurer le train de vie du Guinéen moyen, essayer de voir comment les gens vivent en Guinée, essayer de voir comment les politiques vivent en Guinée, essayer de voir comment les ministres guinéens vivent le train de vie qu'ils mènent comparativement à leur salaire, essayer de voir la malhonnêteté qui caractérise aujourd'hui la société guinéenne. Vous vous rendez compte que
Mais
notre population
qu'est-ce
s'est
qui nous est arrivé? Dites-moi. Bon, je suis dans votre logique. Qu'est-ce qui nous est arrivé, Guinéens, pour qu'on avance dans le retard?
En
Comment
fait,
expliquez-vous?
nous avons été victimes de notre propre choix, le choix porté sur un inconnu, simplement parce qu'il était inconnu, simplement parce qu'il était inconnu par la population guinéenne, simplement parce qu'on a estimé et qu'il nous a vendu le mythe d'être opposants historiques depuis plus de 40 ans, d'avoir vécu dans un pays qui est modèle démocratique depuis plus de 40 ans. Et donc, on s'est simplement servi de ça sans réfléchir sur son niveau d'expérience.
Je voudrais vous poser la question autrement. Est-ce que les chefs d'État de la sous-région, de la CEDEAO, sont influencés par la France?
Je n'ai pas parlé de tout, je vous ai signé deux présidents, je vous ai précisé deux présidents, Ouattara et Mali.
Voilà, il m'a plus tard. Tenez, hein, si je pense que. Tenez, tenez, si je ne me trompe pas, est-ce que notre invité est de retour, Monsieur Corboya-Baldé, tenez, il va falloir que je. Permettez-moi, parce que je pense. C'est l'avoir vu, mais entre-temps aussi, hein, il est reparti. Il est reparti entre-temps. Voilà, on va passer un temps. Hein, donc, écoutez, je vais donner la parole aux auditeurs. Le temps que notre invité reviennent éventuellement, puisqu'il nous reste là maximum 10 minutes avant la troisième partie. Voilà, mes auditeurs. Comme ça, si vous avez des questions, éventuellement, vous pouvez. Bon, si vous avez des commentaires, vous pouvez faire vos commentaires. Ou le tout votre invité, vous poserez vos questions directement. Monsieur Amadou, du côté des États-Unis, si vous m'entendez, votre micro, il est activé. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur Ba. Bonsoir à notre invité Corboya, donc le jeune homme que j'ai toujours aimé. Je vais lui poser une question.
Ok, allez-y, il n'est pas là, mais je vais noter la question éventuellement.
Bonsoir. Ah, il n'est pas là.
Oui, nous, on l'a perdu entre temps, hein, tout de suite. Hein, donc, on attendait un moment à l'autre s'il va retourner hein, pour pouvoir conclure cette partie. Mais pour l'instant, on l'a perdu.
Donc, je vais attendre. Lorsqu'il va venir, je vais lui poser ma question.
D'accord, d'accord. Alors, j'ai noté, hein, donc vous dites que, voilà, un jeune que vous appréciez beaucoup.
Je l'apprécie beaucoup.
Est-ce que vous pouvez me dire juste une phrase? Pourquoi?
Puisque j'entendais les critiques, les réelles critiques, qu'il critiquait le pouvoir, mais j'allais lui demander aujourd'hui, puisque tout le monde l'écoutait dans les radios, comment il veut critiquer le président avec son gouvernement. Aujourd'hui, il est parti avec son même gouvernement. Est-ce que les gens du gouvernement là auront une confiance à lui? C'est ma question à lui.
D'accord.
Puisque je l'ai beaucoup entendu dans les radios, il critiquait le pouvoir avec son président Alpha Condé, sa incapacité de gouverner le pays. Aujourd'hui, il est devenu son porte-parole. Mais comment ils vont avoir confiance en lui, étant donné qu'ils ont écouté, il a discuté même avec les partisans du pouvoir. Aujourd'hui, il est avec eux. Est-ce qu'ils auront confiance en lui?
D'accord. La question de la crédibilité. Bien. Ok, merci beaucoup, hein, monsieur Amadou, du côté des États-Unis. Hein, c'est Révian, mais comme ça, on va transmettre cette question. Voilà. Monsieur Mohamed Ba, votre micro, je vais l'activer également, si vous m'entendez. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur Ba, bonsoir à tout le monde.
Bonsoir à vous.
Ok, alors. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, les gens qui viennent nous dire ici tout le temps, il faut que la jeunesse prenne leur destin en main, parce qu'ils viennent des résultats. Moi, c'est pourquoi moi j'ai toujours dit, les Guinéens doivent se battre pour qu'on puisse trouver quelqu'un qui aime la Guinée, que tu sois vieux ou pas, un patriote. Être jeune ne veut pas dire que tu es patriote. Vous avez entendu ce jeune-là? Il dit que oui, il est pour que Alpha Condé brigue un troisième mandat parce que maintenant il est avec le RPG. Je suis sûr et certain que lorsqu'il était de l'autre côté, quand il lui dit ça, là, vous allez discuter. Il va dire que non, ça c'est formellement interdit par la Constitution. Vous comprenez? Voici l'image de la jeunesse guinéenne, monsieur Ba. Si on continue toujours de dire qu'il faut qu'on change le vieux. Amener la jeunesse, moi j'ai toujours dit, la jeunesse est plus pure que le vieux là. Parce que si vous on est tous sur les réseaux sociaux, mais c'est pas. On voit les commentaires, ce qui se passe.
Ah, pour vous, la jeunesse, elle est pire que les aînés.
Ah, moi, pour moi, la jeunesse est plus dangereuse que les aînés. Vous avez vu, vous voyez les messages qu'on véhicule sur les réseaux sociaux.
C'est vrai.
En écoutant ces jeunes-là, c'est pourquoi la Guinée, on a un sérieux problème. Crions Dieu d'avoir un patriote, que tu sois jeune ou vieux. Mais être jeune ne veut pas dire que tu es plus patriote que les vieux, là, que nous disons que ils nous ont causé du tort, ceci, cela. En Guinée, ce qui nous manque, c'est le patriotisme, que tu sois vieux ou jeune. C'est aimer le pays, c'est ce qui nous manque en Guinée. Mais quand il s'agit de parler, tout le monde vient parler. Mais lorsque un tel jeune comme ça, si vous lui confiez un poste de responsabilité dans l'administration, c'est une catastrophe, monsieur Ba. C'est une catastrophe. Un tel jeune comme ça, passer ce jeune comme ça, c'est l'argent qu'il voit, l'intérêt. Sinon, ça, c'est pas question de dire qu'il a une conviction politique. Il pouvait quitter à l'UFDG, il n'y a pas de problème. Mais il y a des partis qui véhiculent des messages qui sont mille fois.
En tout cas, bon, lui, il a dit, il veut être pragmatique. Hein. Donc, il a dit, hein, quand je lui pose la question, il dit faire la synthèse. Pour être pragmatique. Hein. Alors, la synthèse entre la conviction et le pragmatisme.
Lui, il a quitté. Moi, je l'ai entendu dire qu'il a quitté à l'UFDG parce que lui, il communiquait dans les radios que le parti ne lui donne pas de l'argent. C'est là qu'il passait tout son temps pour communiquer. Et puis, il est parti au RPG. En ce moment, les communicants de RPG, ils sont en grève. Parce qu'ils sont partis voir Alpha Condé. Alpha Condé ne les a pas regardés. Ils sont en grève en ce moment. Les communicants qui sont là en train de sentir, ils sont en grève. Ils disent qu'ils donnent le RPG jusqu'à la dernière semaine. Puis le parti ne fait rien. Ils vont tous quitter. Ils vont aller dans les autres partis. Moi, c'est aujourd'hui que j'ai entendu ça. Même pas hier, c'est aujourd'hui que j'ai entendu ça. Vous comprenez?
D'accord.
Les jeunes comme ça, c'est pas une condition politique pour moi. Sinon, ils pouvaient aller dans plein de partis en Guinée. Si parce qu'il estime que s'il va au RPG, comme là-bas en ce moment, on délapide de l'argent du peuple, il va avoir aussi sa part de gâteau. C'est la seule chose qu'il amène là-bas, sinon c'est pas une question de conviction politique. Merci, M. Ba.
Bien. S'il revient,
demandez-lui c'est en quoi que le RPG est le meilleur que les autres partis. Qu'est-ce que le RPG a fait pendant 8 ans, à part les hôtels? Est-ce que lui, il dort dans ces hôtels-là? Les hôtels qui coûtent $200 par nuit.
D'accord.
À part les hôtels, c'est pas les hôtels qu'on a besoin. Qu'est-ce que le RPG a fait pendant 8 ans? Même pour organiser les élections, il faut que les gens manifestent. Ils n'ont pas construit,
bien, merci.
Ils n'ont pas construit des écoles.
Merci Mohamed Ba. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Voilà, je passe pas que notre invité revient parce que voilà, déjà il nous reste 4 minutes avant de terminer cette partie. Ensuite, laissez voir notre dernier invité de ce soir, Monsieur Abdallah Cherif, président du Goa, Kiné. On va prendre un auditeur qui écoute nos lives. Alors, cet auditeur, votre nom c'est Prezi Fogo Baldé, hein, si vous m'entendez. Vous nous écoutez à travers africamidi.com. Si vous entendez, monsieur, bonsoir.
Oui. Bonsoir, monsieur Ba. Vous allez bien?
Ça va, merci. Et vous-même, rappelez-moi votre prénom, s'il vous plaît.
Merci. C'est monsieur Baldé Drissa, depuis la Guinée-Conakry.
Et vous êtes la bienvenue.
Je vous remercie. Oui, je vous remercie vraiment pour votre émission. Et je suis très désolé, vraiment. Je ne suis pas contre le choix. De la jeunesse en ce qui concerne le choix des partis politiques, mais je suis vraiment désolé que la politique vraiment ne soit fait de sorte d'être à côté du pouvoir et non pas vraiment pour le développement de notre cher pays. Vraiment, je suis très désolé pour la jeunesse guinéenne.
Vous êtes très désolé. Est-ce que vous partagez l'avis de ce dernier auditeur, M. Mohamed, du côté des États-Unis, qui disait que la jeunesse est pire que les unis?
Oui, je suis d'avis vraiment avec ce dernier auditeur vraiment qui me précède. Et la jeunesse vraiment ne sait pas vraiment où basculer dans la politique guinéenne. Parce que tantôt, ils cherchent toujours vraiment leur intérêt. Tandis que la jeunesse vraiment devrait avoir une vision qui nous permettre vraiment demain de développer notre pays. Et non pas pour l'intérêt vraiment quotidien. Quoi.
Bien, voilà. Merci beaucoup, M. Drissa, depuis la Guinée. Voilà, merci. Alors, tenez, alors, je m'excuse les auditeurs. Il y a certains auditeurs qui ont des difficultés à avoir la parole à travers ZenoLive et le site directement. Voilà, je suis désolé. Voilà, pour ce fait, tenez, on va prendre les auditeurs ensuite pour tirer cette partie. Monsieur Gamdo, du côté de l'Allemagne, si vous m'entendez, bonsoir.
Ah, bonsoir, monsieur Ba. Je salue tous les auditeurs de la radio. Bonsoir.
Bonsoir à vous. Vous avez suivi notre invité. Est-ce que vous avez un commentaire?
Malheureusement, il est parti. C'est dommage. Hein, c'est très, très dommage. Et puis, c'est symptomatique, pas seulement de la jeunesse guinéenne, mais de toute la classe politique, ou même de la plupart des Guinéens, ou autres, etc. Monsieur Corboya, Monsieur Baldé, qui était là, je l'entendais à certaines occasions à Nostalgie et dans d'autres radios guinéennes ou autres. Il était très, très, très pro-IFDG, ou bien plutôt pro-Sellou, etc. Et il critiquait ce gouvernement d'Alpha Condé. J'étais d'accord avec lui-même sur beaucoup de choses. Il critiquait ce gouvernement d'Alpha Condé sur presque tout ce qu'il vient de vomir. Il vient de ramasser son vomi, quoi, de ravaler son vomi. Il était contre le troisième mandat. Il s'en foutait pas mal des hôtels. En Guinée, on avait besoin à manger, on a besoin d'écoles, on a besoin d'hôpitaux, etc. C'était ce qu'il disait. Et il avait raison. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout d'un coup, on ne sait pas trop ce qui s'est passé au sein de l'IFDG, si c'est pour des problèmes personnels, pour des problèmes d'argent, mais au fond, sa critique envers l'IFDG, moi, je la partage entièrement. Mais le problème, c'est quoi? Quel est le problème qu'on a? Les gens ne restent pas dans un parti et critiquer au sein du parti. Ils vont et ils vont où? Dans un parti qui a tué ses amis jusqu'à avant-hier. Dans un parti qui critiquait il n'y a même pas longtemps. Ils quittent le parti des victimes, bon, ses camarades victimes et autres, et il va dans le camp des bourreaux. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. On peut quitter l'UFDG, mais pour un autre parti d'opposition, même pour tourner le dos, même pour faire autre chose. Mais quitter l'UFDG pour aller rentrer au RPG, et alors que ce sont ces mêmes personnes qui ont tué vos amis il n'y a pas très longtemps, et tous les problèmes que la Guinée avait il y a une semaine de cela, il disait tout le problème de la Guinée, c'est le RPG, c'est Alpha Condé, il citait tous ces problèmes. Et ravaler son vomi et venir dire ouais, troisième mandat, c'est pas grave, et tout, c'est dommage. Ce que j'aurais souhaité, ce genre de personne, parce que sa critique au sein de l'UFDG est très bonne, s'il avait une certaine conviction, si ce n'était pas forcément quelque chose de personnel ou autre, c'était très bon qu'il reste au sein de l'UFDG et qu'il discute au sein de l'UFDG des problèmes qu'il y a au sein de l'UFDG. Et s'il peut venir à la radio et autres, qu'il discute de ces problèmes. Il y a d'autres personnes qui ont soulevé les problèmes au sein de l'UFDG à l'époque. Il était un sniper, il faisait partie des mercenaires qui assassinaient ces personnes sur les chaînes de radio en Guinée. Et c'est dommage. Cette discussion, l'UFDG doit la faire. Et ces personnes comme lui, ils auraient pu faire cette discussion au sein de l'UFDG actuellement pour que le parti change à l'intérieur. Pour que ce qu'il a fait corruption, mais c'est le président seul qui gère tout, pour que tout ceci change. Bon, mais pour cela, il faut une certaine conviction. Il faut se battre pour des valeurs, pas pour quelqu'un, mais pour son petit intérêt personnel. S'il avait des convictions, s'il votait pour des valeurs, là, se battre au sein de l'UFDG, ou même quitter l'UFDG, aller dans un autre parti d'opposition, mais pas repartir au RPG qui nous a foutu dans ce bordel jusqu'à présent. C'est dommage.
Merci, Baldé Kando, du côté de l'Allemagne. Voilà, mon littéral. Voilà. Un verre d'eau. Monsieur Alpha Jus du côté des États-Unis, votre micro, je vais l'activer si vous m'entendez. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur Ba. Bonsoir à tous nos auditeurs. Vous voyez, ce que moi je voulais demander à Corboya, combien de fois as-tu entendu des forts résistants surtout aux États-Unis? Je suis un grand supporter du parti, militant et responsable du parti. Quand texte a-t-il entendu des fonds raisés ici? Vous savez, nous, ce jeune-là, je le dis, il y avait un club, un mouvement ici, quand il avait des problèmes, des fois, quand la vie politique il était chaude là, il y avait des gens qui l'invitaient, surtout un jeune frère aussi qui aime trop la Guinée, il parle là-bas chaque fois, il se sauve. Il avait le numéro de ce jeune-là. On lui a chargé ici ses téléphones pour qu'il puisse quand même intervenir. Mais intervenir dans une radio seulement, faire des critiques ou même des commentaires, quelqu'un peut te payer pour ça? Et je ne dis que parce qu'on ne me paye pas, un communicant se base, ça ne fait pas pitié pour la jeunesse. Le fait seulement d'aller, mais quel est le parti qui a peur des critiques? Communiquer dans les. Est-ce que. Mais en plus, il y a les grands votants ne parlent, n'écoutent même pas ces critiques-là. Tu viens, tu réponds. Nostalgie a 2 heures de mission, on le donne 30 minutes pour intervenir. Dans ces 30 minutes, il y a la chance d'être pris. Tu tapes là-bas, tu reviens, tu dis que c'est un boulot d'un jeune, je bats. C'est sa conviction. Et ici, il dit, il est parti maintenant au RPG, il soutient tout. Il ne peut pas parler la vérité même au sein du RPG. Et il sait même pas, il sait aussi que le RPG n'a pas confiance en lui. Et ils se vantent des hôtels, un hôtel où se bat la jeunesse guinéenne. On dit souvent, il faut se fier de notre jeunesse, mais la jeunesse, elle lutte de soi beaucoup. Et des hôtels. Et j'ai un petit peu qui est là actuellement à Conakry. Le courant maintenant, c'est tout, ils n'ont pas le courant. Mais ils viennent devant nous qu'il y a le courant et l'eau dans les quartiers. Vive la République. Ça, c'est la jeunesse guinéenne, vous ne le changez pas. Il n'a même pas encore commencé à fonder une famille. Il est jeune célibataire. À moins qu'il parle de chercher du boulot, mais il accepte. Mais
alors, bonsoir, merci. Voilà. Merci, monsieur Alpha Jus, parce que notre invité, on l'a le troisième invité, hein, il est en ligne, monsieur Abdallah Chérif. Merci à monsieur Alpha Jus du côté des États-Unis. Voilà, ceci dit, tenez, ma victoire, ceci dit, monsieur Abdallah Chérif, si vous nous entendez, à fin de transition, on va enchaîner avec vous, si vous nous entendez, bonsoir.
Bonsoir, comment allez-vous, monsieur?
Ça va, merci, hein, et ravi de vous avoir sur Africa Midi à nouveau. Vous êtes le président du GOAS, le groupe organisé des hommes d'affaires. Et récemment, nous avons eu des informations selon lesquelles vous étiez menacé. Et je vous rappelle, je vais vous dire, c'est un auditeur, je ne sais pas, bon, c'est un auditeur qui m'a, je vais pas donner le nom, mais peut-être, c'est un auditeur qui m'a alerté et qui m'a proposé hein, donc de vous inviter pour qu'on en parle. Et je rappelle, je profite l'occasion pour rappeler les auditeurs. Donc, il y a des cas comme ça, n'hésitez pas. Il faut nous informer, ensuite on invite la personne. Voilà, M. Abdallah Sherif. On nous a eu ces informations selon lesquelles vous subissiez des menaces. Et concrètement, de quoi il s'agit? Expliquez-nous.
Oui, effectivement, parce que j'ai remarqué il y a quelques temps, régulièrement, il y a des hommes qui rôdent derrière mon domicile dans une voiture, quelquefois dans deux voitures, quelquefois en moto. Mm-hmm. Et quelquefois aussi, on me suit en moto ou en voiture non immatriculée, parce que j'ai toujours remarqué s'il y a des numéros. Quelquefois, c'est celui qui me conduit, qui me dit qu'il y a une voiture derrière qui me suit, ou bien il y a une moto qui me suit. Et au bureau aussi, on m'a alerté la même chose. Je me fais la remarque à partir de l'immeuble. De temps en temps, je vois des hommes vraiment complètement suspects à côté de mon bureau. C'est ce qui fait que vraiment, j'ai compris qu'on est en train de me suivre et c'est une menace directe. Et là, c'est des choses qu'on ne doit pas cacher, on doit alerter l'opinion nationale, internationale et l'ensemble des opérateurs économiques, aussi les forces de sécurité, pour que tout le monde sache qu'il y a effectivement ça.
D'accord. Ces menaces, ces personnes qui vous suivent à la trace, ces personnes-là, de qui il s'agirait? Selon vous, selon en tout cas votre compréhension, vous soupçonnez quelqu'un en particulier, M. Sherif?
Oui. Bon, vous savez, c'est difficile de dire c'est telle personne, parce que si on les avait déjà identifiés, ils seraient déjà dans des problèmes, parce que nous, on ne va pas tergiverser avec notre sécurité quand même. C'est pourquoi nous avons alerté. Parce que nous, on ne fait rien de mauvais, rien absolument, nous sommes clairs. Nous sommes propres, nous savons ce que nous faisons. Chaque personne sait ce qu'il est, sait ce qu'il fait. Et s'il est correct, il sait. S'il n'est pas correct, il sait. Et moi, mon cas, je sais que je suis correct. Je sais que je suis propre. Donc, par rapport à ça, j'ai compris que soit c'est par rapport aux revendications que nous faisons pour la défense des opérateurs économiques victimes de l'insécurité, victimes de tracasseries, victimes de pillages. Et puis, de l'autre côté aussi, je peux douter aussi certaines... pour le problème de la chambre de commerce, parce qu'il y a aussi des tiraillements au niveau de la chambre de commerce. Peut-être à cause de ma candidature, ça a traîné pendant 4 ans, et je viens de dénoncer justement pour dire que la chambre de commerce qui était là est déjà périmée, parce que quand vous regardez le site www.goinfo.com, vous allez voir la déclaration que nous avons faite par rapport à cette opération de la chambre de commerce qui était déjà les antennes régionaux et préfectoraux, qui a été très très mal installé à l'époque, parce que dans des endroits il y a eu des consensus, mais d'autres endroits ce n'est ni consensus ni élection, c'est des sélections carrément. Donc ça peut être ça aussi.
D'accord. Alors, pour revenir sur ce point que vous avez cité au fur et à mesure, la question que je voudrais vous poser, est-ce que vous avez alerté les autorités par rapport à ces personnes qui vous suivraient?
Bon, vous savez, j'ai alerté les autorités il y a de cela près de 2 mois ou 3 mois même, parce que j'ai écrit au ministère de la Sécurité quand même. C'était pas pour mon cas personnel seulement, c'était pour l'ensemble des opérateurs, parce que je suis à la tête. Je sais que je suis menacé, mais je sais que tout le monde est menacé, parce qu'il y a eu quand même un des membres de notre organisation qui a été porté disparu et retrouvé mort. Et il y a c'est le vice-président de la section GOA de la commune de Matoufo. Ensuite, vous avez Elaz Doura qui est disparu, qu'on ne retrouve pas jusqu'à présent.
Et lui, jusqu'à présent, on n'a pas retrouvé le vieux.
Jusqu'à présent, on n'a pas retrouvé le vieux. Et vous savez, lui aussi, le membre du conseil de charge et de réconciliation du Goa. Vous savez, on vient de fermer tous les marchés du pays pendant 2 jours pour faire ses revendications pour la sécurité des opérateurs économiques et de leurs biens. Et ensuite, pour le dédommagement de tous les victimes. Donc voilà, c'est la situation que nous vivons hein, et nous alertons tout le monde, parce qu'avec notre sécurité, on ne tergiverse pas et nous demandons l'appui de tout le monde, ceux qui sont à l'intérieur de la Guinée et ceux qui sont à l'extérieur de la Guinée. Nous demandons le soutien total de tout le monde.
Oui, j'imagine. Je voudrais poser une question par rapport à ce cas, le vieux Elaz Doura. Est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce que ces enfants ont des nouvelles des ravisseurs comme la dernière fois? Où est-ce qu'on en est par rapport aux autorités? Est-ce que ce dossier est jusqu'à présent suivi?
Vous savez, ça c'est des problèmes, parce que l'information, tout le monde est au même niveau d'information. À un moment donné, on nous a dit qu'il y a eu des personnes arrêtées, que ceci et cela. Donc nous, l'essentiel est qu'on sache où se trouve le biais, parce qu'on ne veut pas rentrer dans des détails, dans des enquêtes policières qu'on ne connaît pas.
C'est quelque chose de très compliqué. Arrivé au niveau de la centralisation à Matam.
Alors, un instant, monsieur Chérif, désolé, nous allons... Voilà.
Il y a eu des cas.
On a une interruption.
Je donne raison.
Après, voilà, un petit bête qu'on va résoudre, on se met à toutes mes excuses.
Vous comprenez?
Voilà, le temps qu'on résout ce problème avant de pouvoir continuer l'émission.
En fait, c'est les hommes qui font la
justice. Please wait a moment.
En fait, c'est les hommes qui font la justice. Nous avons
absolument
un terreau grave ici. Le terreau avec lequel on fait nos têtes, je crois que nous avons un sérieux problème pour notre pays. Tout ne doit pas être des combines. Tout ne doit pas être stupide. Tout ne doit pas être agent et tout ça, parce que nous avons l'avenir à construire.
Mais monsieur Barry, ce n'est pas la première fois que la Guinée organise des élections. On en a connu, il y a eu en 2010, il y a eu les législatives, il y a eu les présidentielles également de 2015. Dites-moi, est-ce que... peut-être que je vais être un peu direct. Est-ce que c'est la pire des dernières élections?
Écoutez, toutes ces élections-là ont eu des problèmes. Et c'est ce qui fait que nous avons revendiqué, changé la CENI. C'est des hommes qu'on a mis là. Mais malheureusement, à chaque fois, c'est le pire qui arrive. C'est pourquoi je suis perdu. Parce que là encore, c'est plus grave que par l'eau. Il y avait un peu de morale dans le par le passé.
Je voudrais vous poser la question autrement. Est-ce que tous les chefs d'État de la sous-région, de la CEDEAO, sont influencés par la France?
Je n'ai pas parlé de tous les États. Je vous ai signé deux précisions. Je vous ai précisé deux précisions.
Voilà, merci vraiment, Victor. Voilà, permettez-moi, je m'excuse par rapport à ce bug que nous avons eu. Voilà, c'est un peu ça aussi, les aléas du direct. En tout cas, j'excuse. Et même, Victor, monsieur Abdallah Chérif, est-ce que vous nous entendez toujours?
Oui, je vous reçois, oui.
Voilà, je suis désolé par rapport à cette intervention, à ce bug. Allez-y, continuez, je vous écoute.
Pas de problème, je comprends. C'est ce que je disais, je dis que par rapport à l'insécurité qui règne dans notre pays, c'est pourquoi tout le monde est exposé, ça ne doit pas cacher. Et nous, pour notre cas propre, là, nous demandons vraiment le soutien de tout le monde, ceux qui sont à l'intérieur du pays et ceux qui sont à l'extérieur de la Guinée, parce que tout le monde doit avoir ces informations et tout le monde doit faire tout ce qui est nécessaire par rapport à la sécurité de tous les citoyens du pays, ce n'est pas les hommes d'affaires seulement. Parce que s'il n'y a pas de sécurité, on ne peut rien faire de bon, on ne peut rien faire, dans le cadre de travail, dans le cadre de toutes les activités dans le pays, on ne peut attirer personne dans le pays. Donc c'est ça la situation.
J'imagine. Bien, par rapport à vos revendications, justement, récemment, il y a eu cette rencontre entre le chef de file de l'opposition et le président de la République. Est-ce qu'à travers cette rencontre, il a été question d'une manière ou d'une autre des droits des commerçants qui vous défendaient en ce qui concerne les violences qu'ils avaient subies au moment des manifestations politiques?
Oui, effectivement, vous savez, le jour de leur rencontre, le matin, lorsque nous avons suivi le communiqué, nous avons pris l'initiative d'attirer l'attention du président de la République et du chef de file de l'opposition guinéenne dans leur rencontre de mettre le dossier justement des opérateurs économiques victimes de pillage et de l'insécurité. Donc, je pense que nous avons entendu dans le communiqué, c'est pas trop clair le communiqué, mais le compte-rendu du chef de file de l'opposition, nous avons suivi à travers les médias, parce que je ne les ai pas rencontrés individuellement, mais à travers les médias, j'ai suivi le compte-rendu du chef de file de l'opposition qui a effectivement soulevé ce point, et je pense que quelque part aussi c'est encourageant, et aussi quelque part c'est normal, parce que vous savez, les opérateurs économiques, c'est pas un cadeau qu'on est en train de faire pour eux, parce que les opérateurs économiques justement ont été victimes suite à des événements politiques. Donc, si c'est suite à des événements politiques, c'est les politiciens qui doivent se lever pour défendre justement à ce que les opérateurs soient dédommagés. Donc, dans ce cadre-là, si les politiciens sont conscients par rapport à ça, ça ne fera que nous encourager, parce que si c'était le contraire aussi, nous allions dénoncer. Mais là, on les encourage vraiment d'aller de l'avant.
Est-ce que vous avez espoir que ça va se réaliser?
On a l'espoir. Vous savez, on a l'espoir. Pourquoi? Parce que le document qui est déjà signé reconnaît que l'État doit dédommager ces opérateurs-là. Bon, maintenant, si l'État ne fait rien par rapport au règlement à l'amiable ou ces arrangements ou ces dialogues, si l'État ne fait rien, mais la justice nationale ou internationale peut passer à l'action parce que l'État déjà a posé sa signature à plusieurs reprises comme quoi l'État reconnaît que l'État doit dédommager les opérateurs. Je pense que quelque part, les efforts du GOA ont porté fruit et nous remercions le bon Dieu pour ça.
Alors dites-moi, donc vous avez dit que ça a été signé. Est-ce que vous avez la preuve qu'il y a un document qui avait été signé où on indique, où on reconnaît, de vouloir dédommager les commerçants? Est-ce qu'il y a un document officiel?
Oui, parce que le rapport, comment dirais-je, les accords de 2016, ça indique. Et puis le récent communiqué là, je pense que tout le monde a suivi. Je pense que le récent communiqué là encore indique. Donc, moi, pour nous, c'est quelque part, si des responsables, surtout des responsables de l'État, va jusqu'à ce niveau, ça, c'est une reconnaissance claire. Et étant donné que tous les opérateurs économiques victimes de ces pillages-là sont identifiés par notre organisation, c'est pourquoi nous n'avons pas manqué justement à attirer leur attention par rapport à non-assistance du GOA dans ce comité de suivi, parce que nous avons dit que personne ne peut parler à notre nom là-bas, personne ne peut parler au nom de ces opérateurs économiques victimes de pillage, si ce n'est pas eux-mêmes, ou l'organisation où ils sont membres, où ils sont identifiés. Parce que si on veut la transparence, il faut que le GOA soit là. Si vous regardez dans des sites internet guinéens, vous allez voir la revendication que nous avons faite par rapport à ça. Ça figure même dans notre propre site, le GOAinfo.com. Donc je pense que c'est vraiment clair.
Bien, voilà, c'est clair. Est-ce que vous pouvez nous rappeler à quel montant s'élève à ce jour donc les pertes des commerçants?
Si on prend le total, c'est-à-dire avant l'incendie de Madina, parce que l'incendie de Madina, on n'a pas pu identifier d'abord, c'est petit à petit, c'est difficile, parce que l'incendie, là encore, bon, je vais vous donner d'abord le chiffre, il y a 1568 opérateurs victimes de pillage, il y a près de 220 milliards de pertes, parce que c'est 219 milliards, les 220 milliards manquent un peu, donc ça c'est des victimes de différentes étapes. Maintenant, les accords de 2016, ils avaient pris les victimes de 2013. Les victimes de 2013, c'est moins de 50 milliards, ils sont au nombre de 300, je pense, 62. Je n'ai pas de chiffre exactement en tête, mais je pense que c'est 362 personnes, et puis près de 50 milliards de pertes aussi, c'est en 2013. Mais le total de victimes que nous avons identifié clairement, c'est 1568 opérateurs économiques victimes de pillage et près de 220 milliards de pertes, à part l'incendie, parce que l'incendie qui vient de se produire là au marché de Caporoy et puis au marché de Madina, et il y a eu beaucoup de pillages ces derniers temps dans les différents quartiers, des stations d'essence, des boutiques, des magasins ont été touchés. On n'a pas fini ce travail-là parce que là encore c'est beaucoup plus compliqué pour recenser ceux qui sont victimes d'incendie. Là encore nous avons attiré leur attention autour de ça parce que nous avons dit l'incendie, si on accuse l'EDG, alors là c'est toujours le cas. Si c'est pas l'EDG, si c'est un incendie qu'on ne connaît pas l'origine alors qu'il y a eu des personnes qui avaient dénoncé cela, il y avait eu des intérimaires avant que l'incendie se passe. En ce moment, vous connaissez, c'est sous la responsabilité toujours de l'État, parce que si il y a de ces genre de choses dans le pays quand même, c'est l'État qui doit garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. En tout cas, que ce soit l'un ou l'autre, nous avons des doutes très sérieux et très sérieusement.
D'accord. Alors, quelle est la réaction? Qu'est-ce que l'État a fait jusque-là, depuis cet incendie?
Bon, vous savez, nous sommes une organisation non gouvernementale, mais les opérateurs victimes de pillage ont vraiment les informations que l'État, pour le moment, n'a rien fait, sauf pour dire qu'ils vont identifier. Bon, il y a des personnes quand même, je ne sais pas s'ils sont complices de quelque chose ou pas, pour diffamer le Goa à l'intérieur du marché là-bas, pour dire aux commerçants là de ne pas se faire identifier par le Goa. Il y a certaines...
D'accord.
Voilà. Voilà, bon, bon, tout ça là, c'est un peu le dissuader parce que le Goa peut le défendre maintenant, peut le défendre après. Bon, mm-hmm. Je pense que si ils vont dans cette logique-là, bon, nous, on ne peut pas forcer quelqu'un de dire « identifie-toi », c'est lui qui sait s'il va se défendre de toute façon. Voilà la situation.
Bien. Voilà. Alors, la question des chambres de commerce hein, régionales, entre autres, vous avez dit, hein, il y a des chambres de commerce qui ont été mal installées. Il y en a, c'était à travers des consensus. Il y en a, c'est simplement une sélection, pour vous citer. Quel est le problème concrètement? Quel est le problème qui se pose?
Effectivement, vous savez, lorsqu'on a installé ces chambres de commerce en 2014, ils se sont complètement cachés de nous au Goa. Et c'est en dernière minute que le Goa a été informé officiellement par une lettre du ministre du Commerce parce qu'ils étaient obligés de le faire. Donc, parce qu'il restait juste 10 jours, 10 jours des élections, une élection de cette envergure-là, et on nous informe 10 jours avant, mais malgré ça, nous avons quand même pu faire certaines actions pour mettre certains démembrements de notre organisation à la tête de ces antennes partout où il y a eu des consensus presque dans le pays. Mais aussi dans certains endroits, ce n'est ni élection, ni consensus, c'est simplement des sélections ou mise en place de certaines personnes. Vous savez, si vous prenez le cas de Farana par exemple, c'est un certain M. Souleymane Doumbouya qui avait fait un très bon rapport, qui avait déposé au niveau du ministère du Commerce et même de la présidence, mais il n'y a pas eu de réaction. Après, il n'était pas content, il a déposé ça au sein du Goa et nous avons organisé une conférence de presse, nous avons dénoncé, nous avons démontré. C'est le cas de Matoto, de la commune de Matoto, c'est le cas de la commune de Ratoma, où on nous dit seulement que tel est président de l'antenne de la Chambre. Et tous ces manigances-là, nous n'avons pas accepté à l'époque. Et le ministre, quand même, nous a prié à l'époque, clairement, hein, pour nous dire vraiment de patienter, on va essayer de faire ceci et cela. Mais ça, c'est en 2014, c'était le 19 mars 2014. Et le mandat,
c'est. Ça, c'est le ministre du Commerce?
Oui! Alors, le mandat est fini maintenant, parce que c'était pour 4 ans, et c'est 2014-2018, le mandat est pour 4 ans, et c'est le 19 mars, et le 19 mars là, nous avons attendu le 19 mars, le même jour, nous avons prononcé la déclaration pour dire que ce que vous avez forcé pour mettre en place est déjà périmé. Donc, ceux-là ne peuvent pas voter pour le bureau national, parce que là encore, on était en train d'organiser une grande mamaya, pour dire qu'on va installer un président de la Chambre nationale de commerce qui ne reflète pas du tout la réalité du terrain. Alors, cette situation, Dieu merci, ceux qui sont périmés ne peuvent pas voter déjà pour quelqu'un. Donc, si on force la situation, c'est là que je dis que si on force la situation, nous, on va demander le départ de ces organisateurs-là de l'administration et on ne va pas tergiverser autour de ça.
Mais non, c'est qui a la charge d'organiser ces élections? C'est quel service?
Ouais, c'est le ministre, il a son staff, mais c'est le ministre qui a la tête, le ministre du Commerce.
D'accord. Donc, dans les conditions normales?
La fois passée, il était un peu troublé par rapport à la déclaration et tout ça. Il a un peu attaqué le Goa pour dire que pour parler de beaucoup de choses du Goa. Mais de toute façon, nous avons dit que le Goa est là avant lui et le Goa demeurera après lui. Parce que quel que soit après, nous, on ne peut pas nous intimider ni de près, ni de loin. Nous connaissons ce que nous voulons, nous connaissons ce que nous faisons, et nous nous cirons les sourcils de personne. Et je répète, nous cirons les sourcils de personne. C'est eux plutôt qui ont besoin de nous, nous on n'a pas besoin d'eux. Parce que nous, on peut vivre sans l'État, mais l'État ne peut pas vivre sans les opérateurs économiques.
Bien. Voilà, Emmanuel Duterte, donc Abdallah Chérif, président du groupe organisé des hommes d'affaires. Je vais prendre quelques auditeurs. Ensuite, on va terminer cette partie avec notre invité depuis l'Afrique. Monsieur Mohamed du côté de Lyon, si vous m'entendez, votre micro, il est activé. Bonsoir.
Oui, bonsoir Ibrahim, et bonsoir monsieur, et bonsoir monsieur le président du Goa. En fait, tu pourrais dire, hein, Ibrahim, que c'était moi qui t'ai proposé ça parce que je trouvais que c'était très important d'entendre le premier opérateur économique de notre pays. Parce qu'un pays sans économie, excusez-moi, il ne sait rien. Donc, je voulais vous soutenir, monsieur Abdallah. Il ne faut pas lâcher.
Merci.
On essaie de vous intimider. On a vu que monsieur, madame Boiro a été assassinée, que monsieur le vieux que dont on parle a levé, on ne sait même pas où il est. Donc, parlez, faites parler. Ne, surtout ne vous cachez pas, surtout ne vous isolez pas. Faites parler de vous. Vous avez vu monsieur Souma Boubacar du syndicat, comment il a réussi. Vous, vous arriverez aussi, parce que c'est vous qui êtes la Guinée, c'est pas d'autres personnes. Voilà.
Merci.
Je suis content que, je suis content qu'aujourd'hui que monsieur Ba vous ait donné la parole. Parce qu'il faut, il faut soutenir des gens comme vous, monsieur, monsieur Abdallah. À chaque fois, je vous suis sur Internet, je suis vos interviews. Continuez sur votre train. On vous accuse de plein de choses, mais continuez sur votre travail. Vous êtes le, ceux qui font vivre la Guinée. Ce n'est pas le pouvoir, c'est vous qui faites vivre la Guinée.
Merci beaucoup.
Voilà, merci Mohamed. Merci Mohamed.
Voilà, j'avais aucun commentaire à faire, mais en tout cas, je te remercie beaucoup, monsieur. Bah, c'est très important, ces choses-là. Il faut soutenir ces gens-là. Si madame Boiro avait été soutenue, je suis sûr qu'elle serait aujourd'hui là. Il ne faut pas lâcher des gens comme ça. Il ne faut pas qu'on se laisse intimider. Merci, monsieur.
Bien, voilà. Merci à vous. Merci à vous. Donc je rappelle, hein, c'est Mohamed qui m'a alerté, hein, pour, qui m'a envoyé un message, et qui m'a alerté par rapport à ces menaces-là, et puis qui m'a demandé de vous inviter, monsieur Chérif. Alors voilà, je rappelle encore les auditeurs. Toujours, hein. Donc si vous voulez qu'on invite quelqu'un, n'hésitez pas. Tenez-nous informés. Nous allons faire le maximum pour pouvoir inviter la personne. Voilà. Monsieur Abdallah Chérif, nous tournons vers la fin de cette partie. Je voudrais vous poser la question. Par rapport à la Chambre de commerce, est-ce que le GOA sera candidat pour la Chambre de commerce nationale, pour diriger la Chambre de commerce?
Absolument, moi je suis candidat depuis 2014, je vous ai dit que je suis candidat, c'est pourquoi on n'a pas pu justement, parce qu'on ne voulait pas que moi je sois président, on n'a pas voulu organiser une élection, je dis que, bon voilà la situation, on est allé de 2014 jusqu'à nos jours, on n'a pas mis le bureau exécutif en place, toujours c'est un comité provisoire depuis près de 14 ans ou 20 ans même, qui dirige cette chambre de commerce qui ne fonctionne pas, c'est une chambre qui n'a ni toilette ni salon, ça ne fonctionne pas du tout. Donc nous, on a voulu redresser ça parce que nous avons créé le GOA, comme tout le monde le sait, depuis 2003, sous les manguiers du grand marché de Madina. Aujourd'hui, le GOA est représenté dans le monde entier et le GOA est nettement présent dans le pays. Et ça, je vous dis, sans budget, sans budget du tout. C'est pas la Chambre de commerce qui a un budget que moi, je ne peux pas diriger. Parce que là, en ce moment, tout le monde le sait. Et ce que nous demandons maintenant, c'est qu'on reprend, justement, qu'on organise maintenant des élections propres au niveau de la base. Parce que ce qui a été mis là, ce n'est ni élection, ni consensus, c'était juste des sélections. Alors qu'on reprend tout ça là et que le GOA participe nettement sur tout le temps du territoire national et qu'on remonte jusqu'au sommet. En ce moment, celui qui va passer, il va représenter les opérateurs économiques valablement, qu'il s'appelle maintenant Chérif Abdallah ou quelqu'un d'autre. Là, en ce moment, celui qui va passer, il va représenter les opérateurs économiques au niveau de la Chambre de commerce. Parce que ça ne va pas empêcher, de toute façon, le GOA a fonctionné. Le GOA est une organisation non gouvernementale qui fait la promotion et la défense des opérateurs économiques. Et je pense que nous faisons ce travail depuis la création du GOA.
Bien. Dites-moi, au niveau du GOA, vous êtes combien?
Au niveau du GOA?
Oui.
Je peux vous rassurer, le GOA dépasse 100 000 personnes, les membres du GOA. Il y a des
100 000 personnes?
Bien sûr. Il y a des sections et des sous-sections qu'on a créées à l'intérieur du pays, mais nous en avons presque dans le monde entier, nous avons des représentants. Et des pays où nous n'avons pas de représentants, nous invitons la diaspora, surtout les opérateurs économiques, ainsi que les bonnes volontés. Bon, si vous avez des hommes de confiance, on peut prendre des représentations du GOA qui vont mettre des sections carrément dans des pays où ils sont installés. Que ce soit maintenant des citoyens guinéens ou d'autres nationalités, ils peuvent représenter le GOA, il n'y a pas de problème à ce niveau.
Mais justement, ça, je n'arrive pas à comprendre. Au niveau international, à l'étranger, quelle est, si vous voulez, hein, la valeur de la représentation du GOA dans les différents pays, à supposer aux États-Unis, en France, dans ces pays-là? Qui peuvent être membres du GOA? Est-ce que c'est des gens qui font des affaires dans ces pays-là ou qui ont des affaires en Guinée? Qui concrètement?
Bon, vous savez, tous ceux qui font tous ceux qui sont dans le privé, qui font des activités économiques, qui sont de bonne moralité, peuvent être membres de notre organisation. En fait, nous, le GOA, l'avantage du GOA, vous pouvez être sire de chaussures, ou tablier, ou magasinier, ou industriel, ou grand patron, ou simple homme d'affaires qui fait des business, négoce international, et être membre du GOA. Bah, justement, le droit a élargi ça pour pouvoir toucher tout le monde et je pense que ça a donné un résultat extraordinaire en Guinée. Quand vous regardez la dernière fois, le 14 et le 15, lorsque nous avons demandé à tous les commerçants de fermer boutiques et magasins, je pense que même les chiens dans les marchés et les chats n'étaient pas partis ce jour-là. Tout le monde était à la maison. C'était vraiment une journée, des journées sans commerce sur l'ensemble du territoire. C'était extraordinaire. C'est parce que le droit est présent partout et c'est tout le monde est concerné. C'est ce qui a fait ces forces-là.
D'accord. Voilà, merci en tout cas, M. Chérif, d'être passé ce soir sur Africa Midi.
C'est avec plaisir que je vous reçois. Je dis bonjour, bonsoir, pardon, à tout le monde. Je suis très content de mon ami qui vient de nous encourager parce que c'est rare quand même que nous recevons des encouragements et nous savons que nous avons des supporters. Et cela vraiment nous encourage à plus de titres et je le remercie très sincèrement et je remercie tout le monde.
Voilà, merci à vous, Tini et membres auditeurs. Ceci dit, ce sera le dernier mot de l'émission de ce soir, savoir et comprendre, et je vous donne rendez-vous samedi prochain, et merci à tous, hein. Merci à tous, et merci également à ceux qui soutiennent Africa Midi, qui nous soutiennent dans ce que nous sommes en train de faire, que ce soit moralement, que ce soit par des conseils, que ce soit par des contributions, c'est l'occasion de comment dire merci M. Alpha Dio, M. Mohamed Dingisiti, hein, et entre autres. Voilà, merci à vous tous. Voilà, c'est vous qui faites Africa Midi. Rendez-vous pris samedi prochain. C'est dans l'émission Savoir et Comprendre. Entre-temps, vous pouvez suivre en direct sur africamidi.com et des articles seront disponibles sur le site à propos des émissions d'aujourd'hui. Et je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Bonsoir chez vous. Je voudrais vous poser la question autrement. Est-ce que tous les chefs d'État de la sous-région de la CEDEAO sont influencés par la France?
Je n'ai pas parlé de tous les États. Je vous ai signé deux présidents, Ouattara et Macky Sall.
Justement, c'est pourquoi je pose la question. Il n'y a pas que Ouattara et Macky Sall dans la sous-région.
Deux présidents, c'est les deux pays qui sont le plus en avant au niveau de la défense, l'intérêt de la France-Afrique. Ça ne veut pas dire que ce sont les deux seuls pays, mais en tout cas, s'il fallait faire une échelle en termes de soumission par rapport à la France,